nouveau sur la fréquence immaculée.
Du nouveau sur la fréquence immaculée.
Du nouveau sur la fréquence immaculée.
Pour une formation intégrale de la jeunesse congolaise.
Pour la promotion des valeurs humaines, sociales, religieuses et culturelles.
Pour une jeunesse consciente, engagée et protagoniste du présent et du futur.
Suivez chaque samedi à 15h30
l'émission Jeunes pour Jeunes
sur les ondes de Radio Maria
89.9 MHz.
Aimables auditeurs et auditrices, chers jeunes, bonjour. Nous avons la joie d'être en contact avec vous à travers les ondes pour cette émission Jeunes pour Jeunes. Et les thèmes choisis pour ce samedi se présentent de la manière suivante. Le jeune et leur entourage. Ici au studio, nous avons la joie de recevoir une fois de plus des Pauliniens. Nous avons deux théologiens et deux philosophes. Alors je leur demande de bien vouloir se présenter eux-mêmes, en commençant par ma droite.
Merci, moi je m'appelle Rufin Ngoy, je suis junior paulinien, théologien.
Merci. Voilà, merci, c'est Michel, junior paulinien.
Je suis Rajiv Mawissa, aspirant paulinien en philosophie.
Je suis Paulin Moulumba, aspirant paulinien, étudiant en philosophie.
D'accord, voilà, ils sont là les jeunes pauliniens. Ce sont eux qui vont nous aider pour bien partager autour de ces thèmes alléchants, les jeunes et leur entourage. Et sans plus tarder, je m'en vais poser la première question, frère Michel. Nous savons que quand un homme naît, ce qui est normal, hein, il naît dans une famille, sauf quelques exceptions, mais on naît dans une famille. On se retrouve dans une famille. La famille, c'est la petite société de l'homme. Et par rapport à notre thème, frère Michel, quel rôle peut jouer la famille dans la réussite d'un jeune, d'un enfant?
Voilà, merci beaucoup pour la question. Je crois que c'est là où l'éducation de base entre en jeu. Et cela met un peu en exergue les devoirs qu'ont les parents envers leurs enfants. Ça dit qu'il faut éduquer les enfants, leur donner ce que nous pouvons appeler l'éducation intégrale. C'est-à-dire que les parents doivent recevoir l'éducation sur tous les plans, que ce soit sur le plan religieux, sur le plan professionnel et consorts. Alors, les devoirs des parents envers les enfants étrangers, sans oublier aussi l'éducation spirituelle, parce que cela aussi joue beaucoup sur l'avenir des enfants.
Merci beaucoup. Et je rappelle à nos auditeurs et auditrices, à tous ceux qui nous suivent, qu'ils peuvent interagir avec nous à travers un appel ou un message normal, ou encore à travers les réseaux sociaux WhatsApp, au numéro 085-57-28-211. 085-57-28-211. Alors, frère Rajiv, par rapport à cette première question, quelle est votre contribution?
Moi, je pense que la famille étant la cellule de base de la société, la cellule où vivent d'abord les premières valeurs dans la société, les parents jouent un grand rôle, donc un rôle vraiment fondamental, puisque les parents ont l'obligation d'apprendre aux jeunes, soit encore à leurs enfants, des principes déjà fondamentaux, tels que l'amour, le fait d'appartenir dans une société, le travail intellectuel, les études, la responsabilité, voire même la conscience. Et quand le jeune ou encore l'enfant a tous ces principes dans sa vie, je pense qu'il peut mieux émerger dans la vie sociale avec les autres, avec son entourage.
Merci beaucoup. Merci, frère Rajiv. Alors, à partir de ce que vous avez dit, je vais retenir quelques aspects. Vous avez parlé de l'école, l'éducation de base, l'éducation scolaire et tout. Mais il arrive que parfois, au sein de la famille, il y a un certain dépassement ou une extrapolation. Pourquoi je le dis? Parce que dans certaines familles, parfois les jeunes sentent que leur liberté est limitée. Hein? Surtout dans le choix d'être des options à prendre, dans le choix de faculté à l'université. Parfois, on sent que l'influence de la famille, surtout de parents, va un peu plus loin. Alors, je voudrais savoir, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ce jeune dont les choix sont parfois imposés par le parent ou influencés par les autres?
D'abord, je commencerai à dire que dans la vie, il y a certaines choses qui sont presque, qui doivent se faire dans la liberté, tels que le choix. Avec le choix, il n'y a pas d'imposition, mais il y a collaboration pour faciliter la liberté entre le jeune et les parents. Donc, pour ce qui concerne le choix, les jeunes ont l'obligation de vivre dans la liberté. Mais rien n'empêche aussi aux parents de guider les enfants en opérant leur choix. Maintenant, ils doivent le faire non par contrainte ou bien par obligation, mais en collaborant avec les enfants, avec les jeunes, pour que les jeunes comprennent que ce que veut le papa ou encore la maman, c'est mon bien, et non le contraire. Donc, les jeunes ont cette obligation-là de faire leur choix dans toute liberté de choisir ce qu'il peut faire dans la vie, ce qu'il peut devenir tout en respectant les normes familiales, ce qu'aussi la famille veut de lui dans la société.
Merci beaucoup. Alors, je me tourne directement vers le frère Rifin. Frère Rifin, vous allez m'excuser parce que je reste là. Je change pas de question, sauf que je vais ajouter quelque chose qui apparaît un peu plus compliqué, tout ça. Il y a des jeunes qui nous suivent, certainement il y a des jeunes qui se retrouvent dans ces genres de situations. Alors, dans un contexte de conflit, c'est-à-dire, il y a un jeune qui dit que moi, je ferai ceci, et le parent dit carrément, non, pas ça, nous voulons que tu fasses ça. Nous sommes dans ce contexte-là de conflit. Il y a certainement des jeunes qui se retrouvent dans ce contexte de conflit. Qu'est-ce que vous pouvez leur proposer ou conseiller? C'est-à-dire, doivent-ils mettre de côté leur passion ou leur vouloir en faveur de la proposition de parents, ou ce sont les parents qui, à un certain moment, doivent se dire, bon, nous avons proposé, nous avons forcé, il y a eu conflit, les jeunes ne veulent pas céder, alors on croit que c'est mieux de les laisser faire son choix.
Voilà, merci. C'est une question complexe d'abord parce que la manière de traiter les cas n'est pas toujours la même. Je proposerai à ces jeunes qui traversent ces moments de conflit, sur les choix surtout. D'abord, la première des choses, c'est d'abord la compréhension. Généralement, les conflits naissent de la mésentente. Quand on ne se comprend pas, l'autre ne veut pas écouter ce que le parent dit. D'abord, il faut écouter. Écouter, il ne suffit pas plutôt de dire seulement que tu dois faire la médecine, tu dois faire les sciences infirmières, tu dois faire l'économie. Il ne suffit pas de dire cela, mais expliquer aussi les raisons. Pourquoi je dois faire cela? Pourquoi je dois choisir ceci et non pas cela? Moi, je pense que c'est là où se situent les problèmes. D'abord, l'explication du choix que vous voulez proposer à l'autre. Parfois, on s'arrête au niveau de dire, non, tu dois faire la médecine, sinon je ne te paye pas les études. Moi, je pense que d'abord, la clarification ou l'explicitation du choix que vous proposez à l'autre. En retour, l'écouter aussi, écouter ses convictions, mais aussi ses capacités. Quand il y a cette écoute, cette compréhension, je pense qu'on va toujours arriver à un compromis. Mais si le parent, le papa ne veut pas écouter les jeunes, les jeunes non plus n'accordent pas l'attention à la proposition de qui
de parents.
Il n'y aura pas entente. Donc, l'écoute, la compréhension, l'explicitation et surtout l'intégration de cet aspect, donc de l'écoute, de la compréhension. Mais laisser l'espace aussi de la justification.
Merci beaucoup. Par rapport à la justification, ça tombe bien parce qu'il y a, le frère Arsène Polo qui est séminariste et stagiaire au diocèse de Matad. Il venait de nous faire son message. Il nous a écrit en guise de contribution par rapport à cette question. Lui dit ceci: nous conseillons aux jeunes dont le choix est imposé par le parent de faire comprendre aux parents que le choix porté à tel ou tel autre domaine de la vie, c'est par rapport à leurs compétences. Et que ceux-ci ne doivent pas leur imposer de peur qu'ils ne se retrouvent pas dans la vie et fassent de parents des boucs émissaires. Alors frère Arsène, merci pour cette contribution, combien riche. Frère Paulin, je me tourne vers vous. Alors, puisque nous parlons de jeunes et leur entourage, qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux jeunes dans le choix de personnes qui peuvent faire partie de leur entourage? Quels conseils pratiques à leur prodiguer?
Avant d'arriver à donner ce que je pense par rapport à cette question, j'aimerais d'abord qu'on définisse c'est quoi l'entourage. Parce que c'est par là que tout commence. Le concept entourage plutôt, dans son sens social, parce qu'il peut avoir plusieurs sens, mais nous retenons ici son sens social, il signifie l'ensemble des personnes qui entourent un individu. Et ces personnes peuvent être les membres de la famille, les amis, les conjoints pour la conjointe, les collègues de service ou de l'université, et tout ce qui va avec. Donc, bref, toutes les personnes qui sont à côté d'un individu. Et ces personnes peuvent jouer un rôle très influent sur la vie d'un individu. Alors, pour nous jeunes, il est toujours nécessaire et très important de savoir avec qui coopérer, avec qui être en relation, compte tenu de nos objectifs. C'est-à-dire, chaque jeune tel qu'il est, il a sa vision, la vision de la vie future qu'il veut se forger. Par exemple, il s'est dit, moi, dans les jours à venir, je serai un tel. Alors, compte tenu de l'objectif ou de la vision que nous avons de notre futur, nous devons orienter notre choix à cela. Je ne peux pas avoir des amis qui sont passionnés du foot, alors que moi, je vais être, par exemple, un militaire. Cela ne va pas marcher. Si je sais que je serai, par exemple, journaliste dans mon avenir, dans ma vie d'adulte, je dois également choisir les camarades ou les amis qui vont me permettre à réaliser mes ambitions, à réaliser mes objectifs. Parce que si j'ai choisi les amis qui n'ont pas la même vision que moi, ils vont me décourager. Et quand ils me découragent, je n'arriverai pas à atteindre mes objectifs.
Merci beaucoup pour cette contribution, mais vous me permettez de rester un peu avec vous parce que bon, il y a des jeunes qui suivent, ils ont besoin des éclaircissements. Alors, j'ai l'impression, ou nous avons l'impression, ou encore certains jeunes ont l'impression qu'ils ne peuvent pas avoir d'autres amis qui ne partagent pas le même centre d'intérêt qu'eux. En fait, par exemple, pour un jeune qui veut devenir magistrat, vous pensez qu'avoir un ami médecin ne serait pas quelque chose de bénéfique ou d'enrichissant?
Je n'étais pas très catégorique dans les choix. Pour ce jeune qui veut être magistrat, avoir un ami médecin, c'est très bénéfique dans le sens où il aura une diversité de connaissances.
Oui.
Parce que quand on a des jeunes, plutôt des amis, qui sont dans d'autres domaines, cela permet un enrichissement.
On se complète.
Dans la compétence, voilà, on se complète. Donc lui, il peut partager son expérience en tant que magistrat et moi aussi, je lui partage mon expérience en tant que médecin. Et puisque les droits et la médecine, je pense qu'il y a toujours des points communs, les points qui vont ensemble et que l'autre peut aussi apporter un plus.
Merci beaucoup, merci. Frère Michel, dans le choix de son entourage, qu'est-ce que vous pouvez proposer à un jeune, par exemple, aujourd'hui?
Voilà, merci. Le jeune et le choix de leur entourage. Bon, je voudrais ici évoquer une expression selon laquelle « Dis-moi qui t'y fréquente et je te dirai
qui tu es. »
Je crois que ça peut quand même nous enseigner en ce sens-là. Et aussi, il faut peut-être affirmer qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Dans le sens où il faut déjà au départ, peut-être qu'il y a certaines choses que nous faisons volontairement, il y a certaines choses que nous pouvons faire, bon, comme je l'ai dit, de façon volontaire. Mais là, nous avons quand même cette possibilité-là de pouvoir discerner. Nous avons quand même cette possibilité de pouvoir, en fait, user de la raison dans le choix de notre entourage. Alors, dans le sens où nous pouvons évoquer l'unité dans la diversité, déjà, même si la personne qui veut être avec moi ne répond pas à mes attentes, je crois que nous pouvons quand même l'aborder dans le sens où nous visons en fait cette richesse-là. Mais déjà au début, si vous vous rendez compte que la personne que vous voulez aborder n'a pas des intentions claires envers vous, je crois qu'il faut bel et bien se retirer. Il faut bel et bien prendre des distances envers cette personne-là. Parce que bon, c'est vrai que bon, certaines choses peuvent être dans l'ombre, mais vous pouvez vraiment avoir cette opportunité-là de pouvoir connaître la personne que vous voulez bien aborder. Alors, il faut bel et bien jouer à la sagesse dans ce sens-là et savoir un peu qui il faut fréquenter et comment il faut orienter un peu votre entourage. Si vous vous rendez compte que vous fréquentez quelqu'un qui ne vous encourage pas du tout, si vous vous rendez compte que vous fréquentez quelqu'un qui vous tire vers le bas, je crois que le plus tôt possible serait de bien vouloir se retirer pour bien avancer.
Pour ne pas tomber très bas.
Effectivement.
Comme il vous tire vers le bas.
Tout à fait.
Merci, frère Michel. Je pouvais bien continuer avec vous, mais je préfère poser cette question, frère Ruffin, pèlerin de l'espérance. La fois passée, on parlait même de jeunes et de l'espérance. Et dans nos différentes interventions, je me rappelle que être un jeune pèlerin de l'espérance signifiait aussi savoir aider les autres, leur venir en aide quand ils sont en difficulté. Mais par rapport à ce que vous venez de dire, frère Michel, j'ai l'impression que ce jeune-là qui sont en difficulté, ces jeunes peut-être qui n'ont pas grand-chose à donner, nous devons les abandonner ou les reléguer au second plan. Parce que quand vous dites que quelqu'un nous tire vers le bas, il faut les laisser. Alors, cette personne-là qui a l'habitude de tirer vers le bas, n'a-t-il pas besoin aussi d'être relevé? N'a-t-il pas aussi besoin d'être porté ou bien aidé? Voilà pourquoi, au frère Ruffin, je pose un peu la question de savoir, peut-être à ces jeunes-là qui n'ont pas grand-chose à donner, si notre entourage doit toujours être constitué de ces personnes-là qui nous aident ou chez qui nous trouvons peut-être de la force, de l'énergie pour avancer, pour réussir dans la vie. Et alors, que dire de ces jeunes qui n'ont pas grand-chose à donner? Que dire peut-être de ces jeunes qui sont là, qui n'ont pas peut-être eu les mêmes opportunités que nous? Est-ce que nous devons le laisser, les abandonner? Est-ce que, et n'ont pas besoin d'avoir aussi des amis dignes?
Merci, la question. La question est claire, mais moi je pense que il y a un philosophe qui disait, je crois que c'est Épictète, dans son livre L'Emmanuel, Manuel d'Épictète, disons, écrit à son nom, Dès la première phrase, il dit « De tout ce qui existe dans ce monde, il y a des choses qui dépendent de nous et celles qui ne dépendent pas de nous. » Et il va énumérer les choses qui dépendent de nous et celles qui ne dépendent pas de nous. Parmi les choses qui dépendent de nous, il faut d'abord situer la capacité de choisir. Choisir, c'est quelque chose qui dépend de nous. Alors, il y a des choses qu'on peut choisir et d'autres qu'on ne peut pas choisir. Par exemple, on ne choisit pas ses parents, mais on choisit la manière de vivre avec ses parents, la manière de les aimer. On ne choisit pas ses frères, mais on choisit de les aimer. Alors, pour l'entourage, si on exclut d'abord les parents et tout ce qu'on ne choisit pas, mais on doit se situer au niveau de ce que nous pouvons choisir, je dirais que... Et puis, c'est focalisé surtout sur ceux-là qu'on nous pensons qu'ils n'ont rien à donner. Mmh. En réalité, tout le monde a toujours quelque chose à donner, mais il faut les aider à découvrir ce qu'ils peuvent donner. Généralement, c'est lorsqu'on a besoin de donner, c'est que de donner un peu comme l'autre, donc ressembler à l'autre, parce que l'autre a une bonne diction. Donc, je méprise toutes les qualités que j'ai. Je cherche à travailler seulement sur la diction pour devenir comme l'autre. J'oublie mes qualités. Et voilà, dans une relation, par exemple, je me relationne avec quelqu'un qui connaît chanter et moi, je ne maîtrise pas cela. Et peut-être ma qualité, c'est danser. Mais comme je cherche à tout prix à chanter, à vouloir chanter, et voilà, je serai inutile dans ces groupes. Mais dès lors que je découvre ce que moi aussi je peux donner, alors je peux être utile. Voilà pourquoi ce que nous pouvons aider à ces jeunes-là qui semblent être inutiles dans notre relation, dans notre entourage, nous devons d'abord les aider à découvrir leur potentialité, leur force, leurs dons, leurs qualités, et à partir de là, les mettre en valeur.
Merci beaucoup pour cette contribution. Alors, frère Rajiv, par rapport à ce que le frère Rifin venait de dire, c'est-à-dire il faut qu'il y ait échange. L'autre a quelque chose. Savoir découvrir ce qu'il y a dans l'autre pour peut-être apprendre, pour peut-être se l'approprier, c'est aussi c'est positif. Alors, dans ces rapports du donnant-donnant, de l'échange, l'enrichissement mutuel entre jeunes, dans un entourage, il y a souvent des conflits. Même au sein de la famille, parfois on se rend compte qu'il y en a qui donnent moins, il y en a qui donnent plus. Certains donnent moins, d'autres donnent plus, alors ça crée des conflits. En dehors de la famille, même à l'université, même dans les groupes de jeunes, parfois on se rend compte que certains donnent moins par rapport aux autres. Il y a des conflits, des incompréhensions, tout ça. Alors, qu'est-ce que vous pouvez proposer pour résoudre ces genres de conflits dans un entourage où les jeunes ne savent plus se mettre d'accord, peut-être parce que l'un se sent utilisé, peut-être l'autre se sent lésé. Dans ce genre de conflits entre jeunes, qu'est-ce que vous pouvez proposer?
Oui, merci beaucoup. Je commencerai par dire que, comme a dit celui qui m'a précédé, que tout le monde a quelque chose à donner à l'autre. Alors, il faut l'aider à découvrir ce qu'il peut donner. Parce qu'en soi, lui-même ne sait pas ce qu'il peut donner. Mais nous qui sachons peut-être comment l'aider à découvrir cela, nous devons l'aider. Comment nous pourrons peut-être l'aider? Imaginons par exemple dans une famille où vivent les enfants, les parents. Entre frères, entre jeunes, nous découvrons qu'il y a un qui fait plus, qui donne plus, qui travaille plus, et il y a les autres qui ne travaillent pas. Peut-être que celui qui travaille là a mis en jeu ses compétences, ses valeurs, il a mis en jeu ses connaissances pour que dans le futur, ils travaillent mieux pour qu'ils se débrouillent mieux. Et les autres, en effet, on peut peut-être regarder, observer et contempler. Et parfois, comme vous aviez souligné, ça crée des conflits. Et peut-être que de la haine, de l'injustice, de manque d'amour, tout cela est en jeu. Alors, pour les résoudre, je dirais justement que, là où j'ai commencé, il faut aider l'autre à découvrir ce qu'il est réellement. Si on le sent, il est tellement faible, nous devons les relever, les soulever, l'amener si haut comme nous. Puisque nous insistons que dans la vie, réussir seul, ce n'est pas mieux. Nous devons réussir ensemble, porter l'autre pour que nous tous nous émergions. Quand nous allons seuls, on peut aller si loin, mais peut-être qu'on ne va pas atteindre que des bons objectifs. Peut-être que comme si nous allions à deux ou à trois encore. Donc, nous pourrons l'aider peut-être en l'aidant à découvrir ce qu'il est réellement. Peut-être que aussi ses défauts peuvent devenir des qualités, par exemple. Et ça peut nous aider dans une communauté où nous vivons ensemble. Donc, je dirais simplement que l'aider à découvrir ce qu'il est réellement peut émerger la communauté en mélangeant les savoirs, les connaissances, afin que tout le monde tend vers la réussite.
Merci, merci frère Rajiv. Frère Paulin, il y a certainement de conflits fraternels qui existent, dont peut-être que certains frères qui ne se parlent plus nous suivent, des jeunes. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ce jeune qui habitent une même maison, mais qui ne savent même plus s'adresser la parole, qui ne sentent plus le bien fondé de l'entourage familial. C'est vous qui avez défini l'entourage, et dans votre définition, il y a entre autres cet aspect, par exemple, des gens qui sont là, qui vivent avec la personne. Ce sont ces gens-là qui constituent l'entourage de la personne. Mais dans certaines familles, il y a des frères, des sœurs, jeunes qui ne se parlent plus. Et les parents ont essayé de les réconcilier, mais sans succès. Alors, qu'est-ce que vous pouvez leur prodiguer comme conseil? Oui.
D'abord, je commencerai par affirmer que là où vivent les hommes, il ne manque jamais des tensions, des conflits et tout ce qui va avec. Bref, il ne manque pas de problèmes. Donc, c'est normal que dans une famille, qu'il puisse y avoir des problèmes. Mais ça devient anormal si le membre de cette famille n'arrive pas à gérer ou à trouver des solutions pour continuer à vivre bonnement les relations en tant que frères et sœurs dans une famille. Alors pour ces jeunes qui sont en conflit entre eux et qui n'arrivent pas à se réconcilier, premièrement, avant même d'arriver au conflit, je conseillerais aux jeunes de développer plus la tolérance et de savoir les limites de l'autre, ce que l'autre ne veut pas. Et quand on sait ce que l'autre ne veut pas, ce que mon frère ne veut pas, on saura comment vivre avec lui. Et quand on vit avec, bien avec lui, moi je pense qu'il n'y aura pas de conflits. Et au cas où des conflits arrivent, la tolérance, c'est un remède. La tolérance, l'humilité. Donc, chercher toujours les moyens pour se réconcilier. Chercher d'autres personnes, des intermédiaires qui peuvent faciliter la réconciliation pour que la relation continue et aille de l'avant.
Merci beaucoup. Merci. Merci, frère Paulin. Alors, frère Ruffin, parfois, les causes des conflits juvéniles sont les pressions qu'on peut exercer sur les amis, sur les autres. Vous voyez, par exemple, des gens qui sont amis, mais à un certain moment, vous vous rendez compte que la personne exerce une certaine pression pour vous, parfois pour lui rendre service ou encore peut-être faire quelque chose que vous ne voudrez pas faire, mais il vous accule. Alors, par rapport à ces genres de pressions ou les influences amicales, comment peuvent réagir le jeune afin qu'il ne soit pas négativement influencé? Oui.
Ce qu'il doit faire d'abord, c'est le discernement. Il doit discerner. Donc, à chaque fois qu'on est devant une situation quelconque, même dans une relation, la plus amoureuse qu'elle soit, on doit toujours discerner, on doit toujours juger les faits. C'est-à-dire, nous sommes devant un fait, on nous demande par exemple un service. Cette demande-là, ne doit pas être une imposition. Alors, lorsqu'elle se présente sous forme d'une imposition, il faut discerner et choisir ce qui est bien pour soi, pour l'autre et pour la société. Donc, le discernement de tout ce qui se présente devant nous, j'estime que c'est le remède face à cette pression.
Frère Michel, face à la pression amicale entre les jeunes, quelle est votre contribution?
Oui, je pense que tout d'abord dépend d'une relation à une autre. Mais tout dépend d'une relation à une autre, tout simplement pour voir la manière de réagir. Mais dans tous les cas, je pense que lorsqu'il s'agit de rendre service à quelqu'un ou à l'autre, ça ne sert pas d'exercer la pression sur quelqu'un. Les relations, qu'elles soient amicales ou je ne sais pas moi quoi, dans tous les cas, il faut quand même ce sens de reconnaissance de la dignité de l'autre. Parce que c'est d'abord un service que vous demandez. Quel que soit son caractère, je pense que exercer la pression, pouvoir imposer, pouvoir utiliser la pression ne serait pas quelque chose d'intéressant. Et dans ces cas, j'inviterai tout simplement les jeunes à une certaine compréhension dans ces genres de cas, si je peux le dire ainsi. Oui.
Merci beaucoup. Alors, il y a la contribution de notre sœur Grace par rapport à cette question. Elle dit, pour ma part, la meilleure façon de faire face à la pression et à l'influence des amis est de rester soi-même. Il est important de reconnaître que bien que nous soyons amis et que nous nous soyons tant bien que mal choisis, chacun est issu d'une famille de laquelle il incarne les valeurs. Ces bonnes valeurs doivent être préservées à tout prix, quel que soit l'impact du milieu ou de l'entourage. Les changements que nous apportons dans notre vie émanent d'une décision que nous prenons personnellement et en toute liberté. Les autres peuvent autant exercer une pression sur nous, mais tant que nous restons fermes et attachés à nos valeurs et principes, cela ne nous impartera pas. Tout est question d'une prise de conscience. Voilà la contribution de notre sœur Grace, à qui nous disons merci pour son apport. Mais je reste ici parce que à travers sa contribution, peut-être qu'il y a, il y a une question intéressante. Frère Agif, le frère, disons, la sœur Grace dit restez soi-même. Mais personnellement, je trouve qu'on peut rester soi-même dans les faux. Hein? On peut rester soi-même dans les négatifs. Et dans ce contexte-là, vous pensez que on ne doit pas peut-être s'ouvrir. Bon, c'est vrai, la pression, mais parfois, cette pression-là peut avoir pour fondement quelque chose de bien ou quelque chose qui veut nous libérer. Hein? Vous prenez les cas d'un jeune qui néglige les études. Hein? Peut-être qu'on a, à qui on a prodigué des conseils, mais il n'y a pas de changement. Un jeune, il a l'essentiel. Il a tout, il a de l'argent. Il travaille déjà. Un jeune qui gagne quelque chose, mais il préfère encore s'amuser avec des filles comme ça. Il préfère blaguer des filles, mais il ne veut pas avoir une relation sérieuse. Même dans ces contextes-là, que ce soit les contextes étudiantins ou académiques ou les contextes peut-être d'une relation sérieuse qui conduirait jusqu'au mariage, vous pensez qu'on n'a pas besoin d'exercer une certaine pression peut-être pour aider la personne à changer ou l'amener à opérer des choix judicieux pour son bonheur ou pour son bien?
Merci beaucoup. Je vais aussi soutenir la contribution de notre sœur Grace qui pense qu'il faut rester soi-même. Je commence par ça, d'accord, et je finirai par l'autre apport.
D'accord.
Je pense que quand elle dit rester soi-même, si je serai dans son idée, c'est qu'au-delà de ce que tout le monde pourra me dire, au-delà de toute force extérieure, moi-même je joue un grand rôle pour mon épanouissement, pour ma transformation, pour mon changement. Je prends l'exemple concret. On peut me conseiller, par exemple, de réussir à l'école, de bien travailler, de bien étudier. Mais si seulement si consciemment, je ne suis pas d'accord à faire ce que la force extérieure me demande, je ne pourrai jamais réussir. Donc, pour d'abord exercer ce que la force extérieure me recommande, je dois d'abord intérioriser mes propres valeurs en moi et enfin maintenant comprendre ce que l'autre veut de moi. Parce que quand j'ai moi-même déjà des valeurs, à partir de ces bases comme valeurs, je pourrai maintenant écouter l'autre et comprendre ce que l'autre veut de moi. Tant que je n'ai pas en moi intériorisé mes propres valeurs, les valeurs qui viennent de l'autre, peut-être que ça pourra aussi m'aider, bien sûr, mais pas avec force comme mes propres valeurs en moi. C'est ce que je pourrais dire par rapport à cette contribution.
Merci, frère Paul, votre contribution.
D'abord, je salue du passage la sœur Grace.
Que vous connaissez très bien.
Que je connais très bien. Moi, je pense que rester seul peut être dangereux dans le sens où...
Rester soi-même,
être dangereux dans le sens où on se trompe. Parce qu'il peut arriver que la personne se trompe, vit dans l'illusion, en pensant que ce qu'elle veut, c'est ce qui est bien pour elle, alors que c'est une illusion et elle a besoin des lumières des autres, d'autres personnes pour découvrir vraiment ce qu'elle veut réellement. Et dans ce sens-là, moi je pense que la pression extérieure peut aider cette personne dans les cas où la personne est dans l'illusion.
Merci beaucoup, merci. Nous tendons vers la fin de notre émission. Le frère Ruffin, je voudrais quand même savoir, vous avez certes un entourage. Personnellement, qu'est-ce que votre entourage peut dire de vous? Qu'est-ce que vous leur apportez comme quelque chose de bien? Les gens peuvent se dire que non. En tout cas, nous avons la joie d'avoir le frère Ruffin paulinien parmi nous. Peut-être que ce que vous allez dire pourra peut-être aider les jeunes qui nous suivent. Peut-être qu'ils pourront vous copier. Peut-être une dernière parole de votre part, un dernier conseil.
Être vrai envers soi-même d'abord.
Ouais.
Respecter les autres. Écouter aussi les autres. Et je vais ajouter la dernière chose.
Vous le dites tellement avec douceur. Que...
Oui.
Oui.
La dernière chose, c'est mon sourire. Je crois tout celui qui m'a déjà rencontré témoignera de mon sourire. Sourire, non pas pour flatter, mais
sourire jaune, comme on dit, pas ça.
Voilà, pas ça, mais un sourire qui accueille, qui écoute, qui comprend, mais qui discerne.
Voilà. Merci, frère Michel. Parce que vous, à travers votre comportement, vous pouvez aussi aider l'autre à s'estimer positivement et puis avoir une certaine confiance en lui-même. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pouvez apporter à l'autre?
Bon, je crois que j'ai toujours milité pour la reconnaissance, dans ce sens-là. Qu'il faut reconnaître en fait la place de l'autre dans nos relations interpersonnelles. Et cette reconnaissance met en quelque sorte en valeur l'autre qui m'aborde, l'autre qui vit avec moi, l'autre qui travaille avec moi. Bon, comme atout que je peux relever ici, s'il faut parler d'un seul atout, c'est en fait la reconnaissance de la place de l'autre. Alors, lorsque l'autre se sent reconnu, lorsque l'autre se sent estimé, je crois que cette valeur-là aide beaucoup. Elle apporte beaucoup dans la vie de quelqu'un que je côtoie, si je peux le dire en ce sens-là.
Merci. Frère Rajiv, en une phrase ou en deux phrases, un dernier mot pour les jeunes qui nous suivent par rapport à ce thème.
Ouais, merci beaucoup. Pour les jeunes qui nous suivent, je proposerai une chose. Et avant de le dire, je commence par dire un petit mot. De nos jours, ce qui tue notre jeunesse, c'est le manque d'écoute. Ils n'écoutent plus les créateurs, n'ont plus leur être intérieur, n'ont plus la force extérieure, donc les amis, ainsi de suite. Donc moi, je proposerai l'écoute, puisqu'en écoutant, on peut intérioriser les valeurs.
Merci, frère Paulin. Un dernier mot.
Un dernier mot que je peux adresser à tous les jeunes, mes amis d'ailleurs, que j'aime bien qui me suivent à travers cette émission Jeunes pour Jeunes, c'est la disponibilité à venir en aide envers ceux qui sont dans les besoins.
Merci, voilà. merci. Alors, chers jeunes, chers auditeurs et auditrices, chers internautes, à tous ces amis fidèles de l'émission Jeunes pour Jeunes et surtout de la fréquence immaculée qui nous suivent, nous disons merci. Merci d'avoir prêté une attention soutenue à tout ce que nous venons de dire. Et nous remercions surtout le jeune Paulinien qui sont là, qui ont accepté de répondre positivement à notre invitation. Et grand merci surtout pour leurs différentes contributions, combien enrichissantes. Au micro, vous avez suivi le frère Omer Diela, qui est aussi missionnaire de Saint-Paul. Et nous n'oublions pas la sœur Gina Lusonso, qui nous a aidés dans l'aspect technique. Elle est toujours avec nous, même si parfois nous l'oublions. Mais aujourd'hui, je crois que elle sera contente puisque nous la remercions. Et à tout le monde, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fête de la Toussaint. Merci beaucoup et ciao.
Par leur perspective, car des fois en la vie, en l'avenir, les jeunes devraient être résolus à discerner pour chercher la justice et la vérité. Poursuivez tout ce qui est beau, gagner la réalité des choses positives. Soyez responsables face à la vie, vous ne devez pas la prendre à la légère. Changer le sens de leur vie. Les jeunes ne devraient